France Inter, franceinter.com.
Certains voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je rêve de l'impossible et je me dis pourquoi pas. Georges Bernard Shaw. Mille ans d'histoire. Il y a 40 ans, dans la nuit du 4 au 5 juin 1968, à l'hôtel Ambassador de Los Angeles, Robert Kennedy venait d'apprendre qu'il avait remporté les élections primaires de Californie et qu'il pouvait désormais être le candidat des démocrates à l'élection présidentielle de novembre. Dans ses discours, il aimait citer ces mots de Georges Bernard Shaw. Certains voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je rêve de l'impossible et je me dis pourquoi pas. Et ce soir-là, l'impossible était en train de se réaliser. Moins de 5 ans après l'assassinat de son frère à Dallas, Robert Kennedy pouvait espérer lui succéder à la Maison-Blanche au terme d'une campagne commencée 2 mois et demi plus tôt. France Inter, Jacques Gara, le 16 mars 1968.
Il y a eu aujourd'hui un véritable rebondissement dans la campagne électorale américaine. Le sénateur Robert Kennedy a officiellement annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis.
42 ans, une mèche rebelle sur le front, le geste élégant pour la repousser en arrière de temps à autre, des yeux brillants et facilement souriants, des dents parfaitement soignées qu'il montre volontiers, un profil d'aigle, une silhouette de playboy. Robert Kennedy, sénateur de New York, qui entre dans la compétition présidentielle à l'âge exact où son frère John y entrait lui-même, est le produit parfait de la société bourgeoise de la côte est des États-Unis.
J'annonce ma candidature à la présidence des États-Unis. Je ne me présente pas pour m'opposer à qui que ce soit, mais pour proposer une politique nouvelle.
André Caspi, bonjour.
Bonjour.
C'était Robert, ou Bobby, comme on disait, Bobby Kennedy, 2 ans et demi à peine avant son assassinat à Los Angeles, le 5 juin 1968, il y a 40 ans, jour pour jour, et cela moins de 5 ans donc après la mort de son frère. Vous le rappelez dans un livre écrit il y a un an aux éditions Complexes sur la famille Kennedy, les Kennedy c'était presque une dynastie, c'était un père qui voulait que ses fils, pas ses filles, hein, mais que ses fils, et Robert était le troisième, que ses fils entrent un jour à la Maison Blanche.
Oui, c'est-à-dire que l'ambition de Joseph Kennedy, le père, était immense. C'était d'abord une ambition pour lui-même. Avant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Kennedy, qui s'était enrichi dans la banque, au cinéma, dans le trafic du whisky, considérait que désormais, il pouvait mener une carrière politique. C'est la raison pour laquelle il avait obtenu du président Roosevelt d'être l'ambassadeur des États-Unis à Londres. Et pour l'Américain d'origine irlandaise qu'il était, c'était une récompense, une très grande récompense. Il espérait qu'à partir de là, cela lui ouvrirait le chemin de la présidence. Et puis patatras, il a commis des erreurs, il a prononcé des phrases malheureuses au cours de son ambassade.
Il était hostile à l'intervention américaine.
Il était hostile
dans la guerre,
tout à fait à l'intervention américaine. Ouais. Bref, il a été mis à l'écart. Mais du coup, il a reporté ses ambitions sur ses fils. Le premier de ses fils, qui porte le même nom que lui, Joseph Kennedy, numéro 3. Le premier de ses fils a malheureusement été tué au cours de la Seconde Guerre mondiale dans une opération de bombardement de 1944 juste au-dessus de l'Europe occidentale entre la France et l'Allemagne. Donc, c'est le deuxième fils qui doit porter les couleurs de la famille et le deuxième fils, c'est John Kennedy. Et puis, après la mort de John Kennedy, dans les conditions tragiques que l'on sait à Dallas, en novembre 1963, il va de soi que l'héritage passe au troisième des fils, c'est-à-dire Robert Kennedy.
Alors, initialement, Robert n'est destiné à rien. C'est d'abord Joe, vous l'avez dit, il est mort. Ce sera John. Hein. Cela dit, ce que va faire le père, Joseph, c'est demander à Bobby, le troisième, hein, celui dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, c'est d'aider son frère. Son frère John a été d'abord élu à la Chambre des représentants en 1946, et puis il pose sa candidature au Sénat en 1952, épaulé justement par son frère Bobby.
Si je suis élu au Sénat, je me battrai pour la Nouvelle-Angleterre et pour l'avenir de ce pays.
When we vote this November, let's all remember, let's vote for Kennedy.
Well, we got up to about 20 minutes ago that you were winning by about 70,000.
John, tu mènes de 70 000 voix, il reste 100 000 bulletins à dépouiller.
That's out of about 2 million,
et ces résultats sont sur 2 250 000 votants. Oui, et il reste 5 % de bulletins.
Well, I'm guess you're glad it's over, aren't you, Robin?
Oh, Bobby, je suis content que ce soit fini.
Who can fight and fight till he wins? Kennedy can. Kennedy can. Who can do the job he begins? Kennedy can. Kennedy can. Who can do America proud? Who's the number one man?
Jack Kennedy, c'est John Kennedy en fait, c'était son surnom, élu donc sénateur du Massachusetts en novembre 1952 avec Bobby, son très jeune frère, il avait 27 ans, Drake Aspy, qui était son directeur de campagne en quelque sorte.
Ben, c'est-à-dire que toute la famille se met au service du candidat.
Et l'argent du père.
C'est-à-dire que le père, discrètement, à l'arrière-plan, parce qu'il est compromis depuis son ambassade à Londres, se contente de verser beaucoup d'argent, ça compte dans une campagne électorale. La mère, les sœurs, les deux frères, car il y a le jeune frère Ted, qui vit encore, participent très activement à la campagne. Ils organisent les uns ou les autres des rencontres amicales chez l'habitant. Où Madame Kennedy mère ne manque pas de rappeler que d'abord elle a été la femme de l'ambassadeur à Londres, ce qui compte évidemment, et puis elle rappelle aussi avec un moment d'émotion que son fils aîné est mort pendant la guerre, et après cela les filles, les deux frères vont de salle en salle faire des discours. Même on rappelle l'anecdote où Robert Kennedy se rend en transpiration à toute vitesse dans une salle et déclare: écoutez, ma mère est prise, mes sœurs sont occupées, mon autre frère fait autre chose, je suis tout seul à venir, mais ce que je vous dis, c'est que John Kennedy, c'est le meilleur candidat.
Voilà, donc c'est Bobby qui disait ça, Robert. Robert, quand même, qui a l'expérience de la politique, il n'est pas sénateur, il n'est pas député, mais il participe à une commission sénatoriale, très célèbre, tristement célèbre, c'est McCarthy. Il a travaillé auprès de McCarthy, ce qui peut paraître bizarre quand on sait que Robert Kennedy avait plutôt plus tard la réputation d'être un libéral, André Caspi.
Oui, mais la famille Kennedy avait des liens avec McCarthy qui tenaient d'abord à leurs origines communes. Ce sont des Américains d'origine irlandaise les uns et les autres. Et d'autre part, ils sont catholiques les uns et les autres. Ce qui veut dire que la présence de Robert auprès de McCarthy s'explique tout simplement par l'influence du père. Et l'on retrouve de nouveau le père. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un ouvrage en anglais qui décrit justement la vie du père en disant: c'est le père fondateur. Dans l'histoire des États-Unis, les pères fondateurs, ce sont ceux qui ont créé la République. Là, le père fondateur, c'est celui qui crée le clan et qui le conduit à la victoire.
Et qui demande une fois de plus à Bobby d'aider son frère John dans la campagne présidentielle de 1960. Il redevient en quelque sorte son directeur de campagne. Il a joué un rôle considérable dans l'élection de John à la présidence des États-Unis en 1960. Et après sa victoire, après la victoire de John en novembre 60, eh bien Bobby rentre dans son gouvernement comme attorney général, ministre de la Justice.
Je prends toute la mesure des graves difficultés de ce poste. Mais je suis habitué à ce genre de défi depuis mes fonctions au ministère de la Justice et à la Commission sur les trafics. Je connais les problèmes des Américains. On pourrait faire beaucoup dans ce domaine, comme tant d'autres.
And in many other areas. You may be able to see lights burning in the fifth floor office of Attorney General Robert Kennedy.
Peut-être voyez-vous la lumière au cinquième étage du bureau du ministère de la Justice, Robert Kennedy. Le ministre quitte rarement son bureau avant 20 heures. Ils travaillent parfois au-delà de minuit, par exemple sur les droits civiques ou sur une campagne contre le crime organisé. L'équipe ne compte pas ses heures. Voilà peut-être le symbole de l'énergie de l'administration Kennedy.
Administration à laquelle donc Robert Kennedy appartient, puisqu'il est désigné par son frère ministre de la justice de ce gouvernement Kennedy au pluriel. Un poste donc auquel Robert Kennedy va se faire beaucoup d'ennemis, à commencer par un homme qu'il avait déjà traduit en justice avant l'élection de son frère, et qui est Jimmy Hoffa, hein, le tout-puissant patron du syndicat des camionneurs.
Oui, alors Jimmy Hoffa, en effet, avait la réputation, solidement établie d'ailleurs, de pratiquer la corruption. C'est-à-dire qu'il recevait l'argent du syndicat, et avec cet argent du syndicat, il trafiquait de l'influence, mais il en prenait une partie pour lui. D'ailleurs, Jimmy Hoffa a été assassiné. Ça veut donc dire que Robert Kennedy a enquêté sur ce que l'on appelle le crime organisé. Mais il a aussi un autre ennemi. L'autre ennemi, c'est le directeur du FBI, J. Edgar Hoover. Parce que, en fait, le ministre de la Justice aux États-Unis est le supérieur hiérarchique du directeur du FBI. Et Hoover n'admet pas que ce soit les Kennedy qui désormais le chapeautent. Il estime en effet que, compte tenu des dossiers qu'il détient et qu'il a lui-même nourris, les Kennedy ne sont pas purs, les Kennedy ne sont pas dignes de la fonction qu'ils remplissent. Et les Kennedy sont dangereux peut-être parce qu'ils ont des penchants libéraux et Hoover est très conservateur. Donc il y a une tension très forte entre le directeur du FBI et le ministre de la Justice. Et j'ajouterais que Robert Kennedy suscite également la controverse car c'est la première fois, c'est aussi la seule fois dans l'histoire des États-Unis, où un président des États-Unis désigne son propre frère pour entrer au gouvernement et pour y exercer une fonction très importante qui est celle de ministre de la Justice.
Les deux frères, le président et le ministre de la Justice, détestent Hoover, mais ils le gardent. Parce que Hoover a sur eux quand même un certain nombre de renseignements hein, qu'il détient, et notamment sur la vie privée de John et ses maîtresses. Hein. C'est comme ça, dit-on, que Hoover tenait en fait les Kennedy.
C'est-à-dire qu'en fait, Hoover s'est fait une sorte de garantie permanente. Ça, la garantie permanente de rester à son poste, c'est précisément d'avoir des dossiers sur les gens qui pourraient éventuellement le limoger. Hoover est devenu directeur du FBI en 1924. Il quitte ses fonctions en 1972 pour une raison très simple, c'est qu'il est mort dans la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, il a été prolongé bien au-delà de l'âge de la retraite qui, à cette époque, existait aux États-Unis. Et s'il a obtenu cette longévité, c'est que précisément, il dispose de moyens d'influence qui lui permettent d'agir sur les responsables politiques et bien sûr sur les Kennedy.
Et c'était notamment sur le président, dont les maîtresses étaient connues de Hoover. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Bobby a joué un rôle également dans la vie privée de son frère, puisque c'est lui qui l'aurait poussé à se séparer, notamment de Marilyn Monroe. D'ailleurs, c'est la veille du suicide de Marilyn Monroe, Bobby était venu lui annoncer qu'il n'était plus question qu'elle voie son frère.
Oui, puis alors là, bien sûr, toute une série de rumeurs existent sur les liens entre Robert Kennedy et Marilyn Monroe. Mais on entre dans un autre domaine qui est celui de la fiction et puis aussi d'une certaine réalité. Mais enfin, disons que ça n'est pas tout à fait le but de cette émission.
En tout cas, ça montre que Robert sortait largement du domaine de ses compétences. Il avait forcément la confiance de son frère John. Et on dit même qu'il aurait joué un rôle considérable dans la plus grave des crises qu'aient connues les États-Unis à l'époque, en 1962, la crise des missiles, ces missiles installés par les Russes à Cuba et dont la présence a provoqué en 1962 un bras de fer entre le président des États-Unis et le numéro 1 soviétique Nikita Khrouchtchev.
Ici New York. Le président Kennedy a prononcé hier soir une allocution d'une extrême importance. S'adressant à la nation, il a annoncé les mesures prises par le gouvernement américain envers Cuba. Ça n'est ni plus ni moins qu'un blocus intégral de l'île.
Guerre ou paix ? Couler les navires si c'est nécessaire, a dit Kennedy, si c'est nécessaire. À Moscou, on dit, nous ne céderons pas. Cela semble insoluble. Mais les diplomates s'affairent, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient séance sur séance et pleuvent les textes de compromis.
Now I think that of all the president's advisors,
De tous les conseillers du président, Robert Kennedy est celui dont la sagesse a été la plus grande. Sa maîtrise de la situation était totale. Je pense qu'il mérite plus de reconnaissance que tout autre conseiller du président pour le fait que nous soyons toujours en vie aujourd'hui.
Then I told old Khrushchev, sitting there looking bad, get that junk out of Cuba before you make me mad. Dig up them missile bases, take them planes and all, or grab me a bat, use your head for the ball. It was a dream I had last night. I dream I went to the UN and set the whole nation right.
Quel était le rôle de Robert Kennedy? On l'a entendu dans l'affaire des missiles. Il est ministre de la Justice, attorney général. Or, on l'a entendu, il aurait joué un rôle important pour dénouer l'affaire des missiles, André Caspi.
Vous avez raison, Robert Kennedy est plus que le ministre de la Justice. C'est le confident. C'est l'homme dans lequel le président peut avoir toute confiance parce que c'est son frère. Et c'est aussi l'homme qui peut lui donner les conseils les plus désintéressés. Alors dans le cas de l'affaire des missiles, c'est lui qui a recommandé l'instauration d'un blocus. Le blocus d'ailleurs, en temps de paix, est une notion de droit international qui est contestable. Mais cela permet aux Américains d'abord de réagir contre l'installation de rampes de lancement soviétiques sur le territoire cubain, et en même temps de ne pas aller jusqu'à l'intervention de l'aviation qui aurait peut-être déclenché une troisième guerre mondiale, c'est-à-dire une guerre nucléaire. Donc ce sont des conseils de modération et en même temps des conseils de fermeté. Et dans ce cadre-là, Robert Kennedy a également mis en place un canal de négociation avec l'ambassadeur soviétique à Washington, ce qui veut dire que il sait exactement jusqu'à quel point les États-Unis peuvent aller sans que l'Union soviétique ne réagisse brutalement. Et si la crise des missiles a eu une fin heureuse, c'est en grande partie grâce à ce dispositif dans lequel Robert Kennedy a joué un rôle important. Mais si vous me permettez, je voudrais ajouter un deuxième point. C'est que Robert Kennedy est aussi l'homme de confiance dans la gestion de la crise sur l'égalité des droits entre blancs et noir. Et c'est très important parce que c'est là qu'il prend la place du président, pourrait-on dire. Il assume les responsabilités, il soutient ceux qui réclament que les noirs aient les mêmes droits que les blancs. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, les États-Unis vivaient dans la ségrégation, en particulier dans les États du Sud. C'est-à-dire que du berceau jusqu'au cercueil, noirs et blancs vivaient séparés et c'était légal. Il a donc fallu démolir cette légalité et l'aide, le secours, le concours de Robert Kennedy a été décisif dans cette affaire.
Il est à l'origine en fait en réalité on était à l'époque quand même où déjà il y a la perspective de l'élection de 64, hein. Kennedy évidemment se serait représenté, John Kelly serait représenté et il apporte quand même les voix des Noirs. Il se rapproche, il soutient activement Martin Luther King.
Il soutient très activement Martin Luther King tout en ayant à l'égard de King parfois des soupçons, parce que dans l'entourage de King, il y avait un conseiller communiste ou proche des communistes. Et du coup, d'après Edgar Hoover, qui lui chassait les communistes partout où il devinait leur présence, sur le conseil d'Edgar Hoover, Robert Kennedy se demandait si l'influence communiste n'était pas prépondérante sur Martin Luther King et si du coup il n'était pas nécessaire de bloquer l'action du pasteur noir pour éviter qu'il ne sape les fondements de la démocratie américaine.
Alors donc, il l'a fait écouter. Alors ça, c'était juste à la veille de l'assassinat de son frère à Dallas en novembre 63. Robert Kennedy reste le ministre de la Justice, mais a de très mauvais rapports avec Johnson. Les deux hommes se détestent. Et il est désormais, Robert, le successeur désigné au fond de son frère John. Hein, c'est sur lui que se reportent les espoirs du clan Kennedy et qui pose donc, Robert, sa candidature aux élections sénatoriales de 1964 en profitant de la popularité de son frère assassiné un an plus tôt.
Je vous présente celui qui était plus proche de lui en temps de crise que quiconque, son frère Robert Kennedy. Je veux d'abord vous remercier tous, vous du Parti démocrate, pour tout ce que vous avez fait pour le président John Kennedy. Que voulons-nous pour les États-Unis, pour le logement, pour l'éducation, pour permettre de construire des écoles, des foyers? Nous faisons tous ensemble ce qui est nécessaire et ce pays va être transformé. Ce qui peut nous guider pour les années à venir, ce sont les mots de George Bernard Shaw. Certains voient la réalité et demandent pourquoi. Moi, je rêve de l'impossible et je dis pourquoi pas.
Et c'était Robert Kennedy, donc candidat au Sénat, où il sera élu en 1964. À ce moment-là, il sort pour la première fois de l'ombre de son frère. Il n'est plus dans l'ombre de son frère, qui a été assassiné un an plus tôt. Il est sénateur. Il va même s'opposer, lui qui est démocrate, comme Johnson, au président Johnson, qui lui aussi a été réélu en novembre 1964, et notamment sur la guerre du Vietnam. Il faut rappeler le contexte dans lequel on se trouve en 1964, 65, 66.
C'est d'ailleurs la première fois que Robert Kennedy se présente devant les électeurs.
Oui,
il n'a jamais eu de mandat électif. Il est élu sénateur de New York, c'est une position très importante en raison de l'importance de l'État lui-même. Et il prend figure d'héritier. Il est l'héritier de son frère. Mais en même temps, l'héritier d'une pensée que son frère n'a pas toujours exprimée, c'est-à-dire il faut aider les pauvres, il faut aider les Noirs, il faut aider les Hispaniques. Il faut projeter une image particulièrement favorable des États-Unis, une image de paix. Encore une fois, ça ne correspond pas nécessairement aux réalités de la présidence de John Kennedy. Mais en projetant cette image, Robert Kennedy s'oppose naturellement à Lyndon Johnson, d'autant plus que Johnson voit dans Robert Kennedy comme le fantôme de John. C'est-à-dire qu'il se demande si Robert ne cherche pas à prendre la place du président, c'est-à-dire à chasser Johnson. Johnson a un complexe d'infériorité vis-à-vis des Kennedy. Il n'est pas aussi brillant qu'eux. Il n'a pas derrière lui cette richesse qui caractérise le clan Kennedy. Au fond, pour dire les choses franchement, Johnson voudrait qu'on l'aime. Et il devine que les Kennedy ne l'aiment pas. Il sait que les Kennedy le considèrent un peu comme un usurpateur. Il a pris la place du président assassiné. Alors évidemment, entre les deux hommes, ça n'est pas l'entente qui règne. C'est au contraire des tensions. Et ces tensions débouchent très souvent sur l'hostilité. D'autant plus qu'à mesure que les années passent, Robert Kennedy est de plus en plus hostile à l'intervention américaine au Vietnam. Ça n'est pas qu'il souhaite le retrait immédiat. Non, il ne dit pas ça. Mais il pense que les États-Unis sont allés trop loin, qu'ils sont enfermés dans ce bourbier et qu'il faut qu'ils en sortent. Qu'ils en sortent la tête haute, bien entendu.
Et surtout, on l'a entendu au début d'émission, il présente sa candidature à l'élection présidentielle juste avant que Johnson dise qu'il y renoncera lui-même. Mais donc, il se présente contre Johnson. Et il obtient vraiment beaucoup la sympathie des Américains qui se souviennent du frère, mais qui apprécient aussi ce Robert Kennedy. Et il est même aux élections primaires dans le camp démocrate, il a même beaucoup de succès à ce moment-là. On pense même qu'il pourra être président des États-Unis.
Oui, mais que d'hésitation. Robert Kennedy n'a pas été immédiatement candidat à la présidence. Il a laissé d'abord le champ libre à un sénateur du nom de Eugene McCarthy. Il ne faut pas confondre Eugene et Joseph McCarthy, ce n'est pas du tout le même personnage. Eugene McCarthy, lui, qui rassemble tous les adversaires de la guerre du Vietnam. Et alors on dit à Robert Kennedy, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous n'y allez pas? Et il hésite, il ne sait pas s'il faut y aller ou pas. Et finalement, il y va, parce qu'au mois de janvier et au mois de février 1968, il y a eu l'offensive du Tet, et que l'armée américaine a compris qu'elle ne remporterait pas la victoire.
Et puis alors, le 4 juin, donc, il est à Los Angeles, il apprend que les démocrates de Californie lui accordent l'investiture. En tout cas, il gagne les primaires de Californie et il peut espérer donc remporter, devenir le candidat des démocrates à la présidentielle et même, pourquoi pas, arriver à la Maison Blanche. Et c'est à ce moment-là précis, dans la nuit du 4 au 5 juin 68, il y a exactement 40 ans, qu'il était assassiné à l'hôtel Ambassadeur de Los Angeles.
Robert Kennedy est mort, il avait 42 ans.
He was 42 years old.
Those of us who loved him and who take him to his rest today.
Ceux d'entre nous qui l'ont aimé et qui l'accompagnent aujourd'hui prieront pour que ce qu'il a voulu pour nous et rêvé pour les autres se réalise pour tous. Comme il l'a dit souvent à travers tout le pays, certains voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je rêve de l'impossible et je me dis pourquoi pas.
I dream things that never were and say why not.
Et c'était l'émotion de Ted, le dernier des quatre frères Kennedy qui vit encore aujourd'hui et rendant hommage à son frère assassiné. Alors on sait qui l'a assassiné, c'est un certain Siran Siran. On ne sait pas très bien s'il était seul. Comme pour John, 5 ans plus tôt, on se pose des questions encore sur la mort de Robert Kennedy, André Caspi.
Je voudrais dire d'abord que l'émotion a été extrêmement forte. J'habitais les États-Unis au moment où Robert Kennedy a été assassiné. Et je peux vous assurer que les Américains ont été traumatisés. C'était 2 mois après l'assassinat de Martin Luther King. Oui. C'est-à-dire 2 assassinats d'une telle importance. Alors l'assassinat de Robert Kennedy a été en effet attribué à Siran Besiran, qui est un Palestinien. Il vit encore, il est en prison en Californie. Il a été condamné à mort, mais à une époque où la Californie n'exécutait pas. Et il a toujours dit qu'il exécutait Robert Kennedy, parce que cela correspondait au premier anniversaire de la guerre des 6 jours. Alors on a évidemment, à partir de là, épilogué. On s'est demandé s'il n'y avait pas un complot.
La mafia.
On a recommencé, si vous voulez, toutes les hypothèses qui ont pu surgir après la mort de John. Mais à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui, l'assassinat de Robert Kennedy fait l'objet d'interprétations fantaisiste, et l'on sait, on peut croire que c'est bien Siran Besiran qui l'a assassiné.
Merci André Caspi. Je rappelle que vous êtes l'auteur des livres États-Unis 1968, l'année des contestations, qui vient d'être réédité par André Versailles, et John F. Kennedy, une famille, un président, un mythe, publié chez Complex en 2007. Je signale également le livre Robert Kennedy, l'élan brisé, de Frédéric Lecomte-Dieu, qui vient de paraître chez Timet Éditions. Vous avez pu entendre des extraits de plusieurs documentaires, Les Kennedy, destin tragique d'une dynastie, de Philip Whitehead, Robert Kennedy, la fin d'un rêve américain, de Yosha Tatari, et qui sera diffusé, un excellent film qui sera diffusé demain, vendredi 6 juin, sur la chaîne Histoire à 20h50, dans le cadre d'une soirée spéciale Robert Kennedy, à laquelle vous participerez, André Caspi, donc demain, sur la chaîne Histoire à 20h50. Et puis enfin, Bob Kennedy, l'homme qui voulait changer l'Amérique, récemment diffusé sur France 5 et disponible en DVD aux éditions Arte. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Éric Morin, Rémi Quincé, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gillery. Et à notre réalisatrice Anne Kobilac. 6 juin, dans 2000 ans d'histoire, De Gaulle, Roosevelt et le débarquement.